Chers amis, c'est vraiment une joie pour nous de fêter les rameaux, parce que c'est le dimanche des rameaux, avec le groupe de jeunes qui proclament si bien la royauté de Jésus. Jésus était vraiment au centre de nos louanges ce matin, et c'est tellement magnifique de voir comment aussi ces jeunes le proclament. Merci. Voilà, alors il nous faut parler des rameaux, puisque c'est le dimanche des rameaux. Dimanche prochain, c'est Pâques, c'est la résurrection. Et nous entrons dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte, avec tout un tas d'événements. C'est un moment important dans la semaine. Alors voilà, les rameaux, pourquoi on dit les rameaux? Eh bien, oui, c'est un peu de tradition dans notre pays. Vous savez, dans beaucoup d'églises catholiques, on a des petits rameaux de buis comme ça qu'on va chercher à l'église et puis après on les ramène chez soi, on les met sur le crucifix. Enfin, on faisait ça autrefois, je ne sais plus si c'est toujours la coutume, mais j'ai connu ça dans ma jeunesse. On met ça sur le crucifix ou dans la chambre pour que ça nous porte bonheur toute l'année. Bon, c'est une coutume, les rameaux. Mais revenons aux sources, revenons au texte de l'évangile. Dans les quatre évangiles est racontée l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et nous allons lire le texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, comment l'évangéliste Matthieu nous présente les choses. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplissent les paroles du prophète, c'est le prophète Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ils les étendirent aussi sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna ! Au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, « Mais qui est celui-ci ? » Et les foules répondaient, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc voilà pour ce récit de Matthieu. Et cette réaction de la foule, tellement massive et tellement étonnante. Je crois qu'il faut être très attentif aux mouvements spontanés de foule pendant ou après un événement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on a constaté ce qui s'est passé. Par exemple, le 11 janvier dernier, à la suite des fameux attentats de Charlie Hebdo et puis de l'hypercachère près de la porte de Vincennes. Et tout cela a vraiment frappé les esprits et a stimulé les analystes. Ce grand rendez-vous, place de la Bastille, vous vous souvenez? Toutes ces manifestations diverses et émouvantes pour la liberté. Ce slogan, parti d'on ne sait où, « Je suis Charlie » et qui a fait le tour du monde. Comme c'est étonnant. La liberté qui a été magnifiée, glorifiée, presque sublimée, chantée partout. Un mouvement de foule spontané. Alors c'est tellement important que beaucoup ont essayé leurs analyses, en ont parlé, on en a parlé, reparlé. En tous les cas, ça a vraiment frappé les esprits. Ben, vous avez remarqué que dans le texte que nous avons lu, il y a aussi un mouvement de foule qui paraît tout à fait spontané et vraiment puissant, étonnant. Lorsque Jésus est entré, s'est présenté à l'entrée de Jérusalem. Voilà que les gens se sont rassemblés tout à coup par centaines, en quittant toutes leurs activités. Et ils font une haie à Jésus, ils le précèdent, ils le suivent, ils prennent leurs vêtements et étendent leurs vêtements sur le chemin. Il faut le faire, n'est-ce pas? Et puis ils vont couper des branches chargées de feuillage, et puis ils les posent aussi sur la route, ils les agitent. Et ils crient leur joie. Mais comment donc une telle réaction a pu se produire? Et pourquoi donc? Quel est son sens? On est habitué à ces textes, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, ce qui s'est passé. D'un seul coup comme ça, toute cette foule qui s'est amassée et qui a fait de telles actions, de tels gestes étonnants. Alors, comme les analystes, on va essayer de faire notre petite enquête pour savoir pourquoi, comment tout cela s'est passé. Alors, tous ces gens qui étaient rassemblés à Jérusalem, quelques jours avant Pâques, ils savaient que, d'après la Torah, et nous lisons ce texte dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 40, on rassemblait lors de la grande fête des huttes ou des cabanes, on rassemblait des feuillages pour cette fête. Je lis dans Lévitique 23, verset 40, « Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. » Cette fête des cabanes ou des huttes était la troisième fête en Israël, et c'était une très très grande fête, marquée par la joie. Tous les matins, il y avait un sacrifice, et on accompagnait tous ceux qui allaient célébrer le sacrifice avec ces fameux feuillages qu'on agitait, n'est-ce pas, tout du long, et les gens criaient, les gens se réjouissaient. C'était vraiment une très très grande fête. Et le texte du Lévitique nous dit que c'était la fête des récoltes. En effet, elle avait lieu le septième mois, et une fois que toutes les récoltes étaient rentrées. Alors bien sûr, c'était une fête de reconnaissance, une fête de joie, on peut bien le comprendre. Et voilà comment se manifestait aussi la joie, d'après le texte lui-même, de la Bible, mais ces branchages n'étaient pas là seulement pour manifester la joie de tous ceux qui fêtaient les récoltes, mais aussi pour construire des cabanes, des huttes. On appelait ça autrefois la fête des tabernacles, n'est-ce pas? C'était, ou des tentes. Alors on construisait des cabanes et des huttes, et pendant 8 jours, on habitait sous ces cabanes pour se souvenir du séjour au désert du Sinaï, le séjour du peuple pendant 40 ans. Et vous savez que cette fête se fait encore aujourd'hui dans le judaïsme. Les gens construisent sur leur balcon ou bien dans le jardin une cabane et ils y habitent, ils y mangent, et même le père de famille y passe la nuit. Enfin, c'est quelque chose qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez l'atmosphère de cette fête, et quand on lit ce texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on peut penser à cette fête des cabanes, à cette fête des huttes, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la fête des cabanes, là, au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était la fête de Pâques. Alors, ce n'était pas le moment d'agiter les branchages ou de les mettre à terre. Donc, continuons un petit peu notre enquête. Il faut aller un peu plus loin et voir dans la tradition juive Si on fouille un petit peu l'histoire juive, on remarque un phénomène semblable, un semblable mouvement de foule et une telle attitude lors des grands moments de délivrance pour le peuple. Ainsi, entre Malachie et le Nouveau Testament, n'est-ce pas, nous avons là 400 ans, il n'y a pas de texte biblique canonique et inspiré qui nous parle de ces 400 années, mais il y a un certain nombre de livres qu'on appelle apocryphes qui racontent ce qui s'est passé. Et notamment, en 141 avant Jésus-Christ, un certain chef juif qui s'appelait Simon Maccabée a chassé les Syriens de Jérusalem après 26 ans d'occupation. Et quelle occupation, n'est-ce pas ? Une autorité païenne qui avait dominé les Juifs, qui avait tout fait pour les écraser. Et voilà ce Simon Maccabée qui, les armes à la main, délivre la ville et pénètre dans la ville. Alors on va voir le texte qui dit cela dans le premier livre de Maccabée, il y en a deux en fait, au chapitre 13, verset 51. Ils y entrèrent le 23 du deuxième mois de l'an 171. Alors, ce n'est pas tout à fait notre calendrier, mais ça correspond à l'an 141 pour notre calendrier. Avec des acclamations, des palmes, au son des lyres, des cymbales, des cithares, des hymnes et des chants, car un grand ennemi avait été extirpé d'Israël. Les voilà, les palmes qu'on agite, n'est-ce pas ? Parce que c'est une grande délivrance. Et on trouve encore un phénomène semblable dans le deuxième livre, c'est un événement en fait qui a précédé celui dont nous venons de parler, c'est ce qu'on appelle la dédicace du temple. C'est mentionné d'ailleurs dans le Nouveau Testament, si vous avez quelques souvenirs dans les évangiles. Alors cette fois-ci, c'est un autre frère de cette fameuse famille dite des Maccabées, qui s'appelait Judas Maccabée, et qui a délivré en quelque sorte le temple, parce que le temple avait été souillé par un de ces potentats syriens d'influence grecque, et il y avait introduit un dieu païen, fait cesser les sacrifices, enfin c'était absolument épouvantable. Et ce Judas Maccabée a délivré le temple, et à la suite de ça, on a fêté ce jour qu'on appelle la dédicace du temple. C'est la fameuse fête de Hanouka, dont vous avez certainement entendu parler, qui se fête encore dans les quartiers juifs, dans notre banlieue, n'est-ce pas, la fête de Hanouka. Alors, pendant 8 jours, on célèbre aussi cette victoire, et le texte dit « à la manière des tentes », n'est-ce pas, comme on devait faire pour la fête des tentes, aussi avec les branchages qu'on agitait, etc. Alors, ces deux victoires célèbres, victoires politico-religieuses, si vous voulez, sont célébrées ainsi, avec des branches touffues, au milieu d'une joie débordante, comme lors de la fête des tentes ou lors de la fête des huttes. Alors, on fait un petit peu le parallèle avec notre récit des évangiles. Notre enquête avance un peu. On commence à comprendre ce mouvement spontané de la foule. On n'allume pas des petites bougies, hein, comme on fait aujourd'hui dans ces événements terribles que nous venons de vivre. Mais voilà, c'est la joie, c'est la délivrance, et on agite des branches. Alors maintenant, il y a un deuxième phénomène qui s'est produit. Nous avons vu dans le texte des évangiles, c'est que les gens, ils ont pris leurs vêtements et ils les ont mis sur la route où le petit âne passait, n'est-ce pas ? Et avant cela, les disciples ont pris leurs vêtements pour en faire une selle sur cet ânon pour que Jésus s'assied dessus. Alors, pourquoi ? Comment ? Alors, il y a un texte de l'Ancien Testament qui peut-être nous éclairer. Il s'agit du texte de 2 Rois 9, 13, au moment de l'intronisation d'un certain Jéhu, qui est un personnage très particulier, qui, avec beaucoup de crimes, etc., a pris le pouvoir. Mais voilà, c'est un prophète qui l'avait oint, il a été déclaré roi, et à ce moment-là, nous le lisons, tous ceux qui l'entouraient se hâtèrent de prendre chacun son vêtement qu'ils mirent sous Jéhu, en haut des marches, ils sonnèrent du cor et dirent « Jésus est roi ». Voilà une manière, en quelque sorte, oui, c'est pas Jésus, hein. C'est Jéhu. Jéhu, ce personnage que je viens d'évoquer. Mais en tous les cas, pour manifester en quelque sorte leur allégeance à ce nouveau roi, ils défont leurs vêtements et ils les posent là sur les marches. Et puis Jéhu s'assied dessus et montre comme cela qu'il est nommé maintenant roi, n'est-ce pas ? Un roi, les armes à la main, hein. Et manifestement, la foule assimile Jésus à l'un de ces héros du passé qui vont délivrer le peuple, rétablir toute la culture de ce peuple, toute la religion, etc. Et on attend de Jésus une délivrance politico-religieuse encore. C'est ce qui s'est passé là, spontanément, le montre assez clairement. Et on veut une victoire éclatante, et c'est comme si c'était déjà fait. Alors, ça c'est le sens pour la foule, et ce mouvement le démontre vraiment bien. Mais alors il y a une question qui se pose, comment est-ce que Jésus a accepté cette manifestation de la foule? Combien de fois avant il avait refusé qu'on le fasse roi? Parce que plusieurs fois, notamment après la multiplication des pains, on a voulu en faire un roi. Pensez donc, quelqu'un qui nourrit la foule, ça c'est un roi idéal, n'est-ce pas? Il devait encore aller plus loin et chasser les Romains, hein, et délivrer la ville, délivrer tout le pays. Voilà ce qu'il devait faire. Et à chaque fois, Jésus s'est enfui, il n'a pas voulu qu'on le... Et là, il accepte. Alors, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'il a pu laisser faire la foule ainsi? Alors, on peut affirmer que s'il a laissé faire la foule ainsi, ceux qui l'entouraient, et notamment les pharisiens, eux, ils étaient terrorisés, n'est-ce pas? C'est Luc qui nous rapporte cette remarque des pharisiens. « Maître, reprends tes disciples, ne les laisse pas faire. Il y a la forteresse Antonia qui est là avec toutes les garnisons romaines. Ils vont dévaler, ils vont tous nous tuer, n'est-ce pas? Ne les laisse pas faire. » Et vous vous rappelez la réponse de Jésus, « S'ils se taisent, les pierres crieront, n'est-ce pas ?» Il y avait là une atmosphère vraiment formidable, vraiment étonnante. Et on peut dire que, eh bien oui, dans le fond, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, elle était justifiée. Tout à l'heure, on a eu quelques cantiques avec des accents particuliers, un peu dans ce sens. C'était juste, Jésus était le Messie, il était vraiment le roi d'Israël. Vous vous souvenez dans les textes, quand il est devant Pilate, hein, ses réponses ambiguës, « Es-tu le roi d'Israël ? C'est toi qui... » Il est le roi d'Israël. C'était même inscrit sur la croix. Et c'était juste qu'il soit accueilli ainsi, n'est-ce pas ? Et il était bon que le peuple l'accueille comme le roi qui arrive. Et spontanément, en renouvelant ses gestes, antique qui faisait partie de la culture du peuple et qui était tellement significatif. Mais les textes nous montrent que Jésus ne se faisait aucune illusion. C'est le texte de Luc qui nous signale que juste après, en regardant Jérusalem, vous savez, en descendant du mont des Oliviers, en ayant devant lui toute la vision de cette ville, ceux qui ont fait un voyage en Israël se souviennent de ce paysage saisissant, n'est-ce pas? Il avait là toute la ville devant lui et il s'est arrêté et il a commencé à pleurer sur Jérusalem. Hein, si tu connaissais la paix qui t'est annoncée. Et dans ses paroles, il a prévu le siège de la ville et tous ses habitants qui seraient écrasés, c'est le verbe qui est employé, n'est-ce pas ? Il ne se faisait, lui, aucune illusion sur ce que le peuple manifestait là, n'est-ce pas ? Donc, quelques années après, toute cette ville serait complètement écrasée, détruite par les armées de Titus. Et puis, il y a un autre fait, puisque nous faisons une enquête, on va examiner les différents indices de tout ce qui s'est passé pour essayer de comprendre cette journée phénoménale, n'est-ce pas ? Il y a un autre fait, c'est que même si les disciples n'ont pas compris les textes nous précisent qu'ils n'ont pas compris, c'est seulement après, quand Jésus est ressuscité, qu'ils ont vraiment compris. Eh bien, cet autre fait, c'est l'ânon, le petit âne. Voilà une bien curieuse monture pour un roi qui vient d'être intronisé et qui s'apprête à prendre possession de sa capitale. Un petit ânon. Et l'évangile de Jean, dans le rapport qu'il nous fait de cette entrée de Jésus à Jérusalem, nous dit que c'est au moment où le peuple agitait ses branches de palmier, vous savez, le palmier, c'était le symbole de la Judée, vous voyez cette signification politique, en somme, à ce geste, c'est au moment où le peuple agite les branches de palmier et crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », en citant le fameux psaume 118, eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus est monté sur l'ânon, sur ce petit âne. Et le texte nous précise qu'il accomplissait ainsi la prophétie de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Prophétie que nous allons examiner maintenant tellement elle est importante. Voilà cette prophétie. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, pardon. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux ou sauvé. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Sur le coup, les disciples n'ont pas compris. Et cette prophétie était pourtant claire et bien connue. Elle annonçait le Messie. Et elle reflète bien la joie du peuple. Pousse des cris d'allégresse, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Mais elle choque aussi. Ce roi, il est humble. Et la citation de Matthieu nous dit « plein de douceur ». Effectivement, le terme qui est rendu par « humble » dans l'original évoque la pauvreté, voire même, dans certains contextes, la misère ou même la détresse, n'est-ce pas ? C'est choquant. En tout cas, ce ne sont pas les sentiments qui devaient habiter Simon Maccabée ou Judas Maccabée, n'est-ce pas, ou même Jéhu, quand ils ont été intronisés et qu'ils s'apprêtaient à conquérir le pouvoir dans Jérusalem. Mais c'est ce que signifie manifestement ce petit ânon sur lequel Jésus a voulu s'asseoir pour rentrer dans la capitale. Et comme le dit un commentateur, pour ne pas le citer, ça dit le Brian Tidiman, qui a fait un commentaire assez remarquable de ce livre et d'autres encore de l'Ancien Testament, il dit « Ce roi conquérant atypique, allie d'une part splendeur, grandeur, pouvoir et popularité, et d'autre part humilité, douceur, pauvreté, souffrance et faiblesse. » Alors, on ne peut qu'être surpris. Et je crois qu'il faut l'être face à Jésus. Il faut être ébranlé dans nos schémas, dans nos idées reçues. Et la suite de la prophétie va nous faire aller plus loin. Cette suite de la prophétie qui n'est pas citée dans le Nouveau Testament, comme souvent on cite partiellement le texte, mais les gens avaient en tête l'ensemble du texte, il ne faut pas s'y tromper. Elle était connue, cette suite, mais si étonnante en ces circonstances qu'on ne s'en est souvenu que plus tard. Voyons le verset 10 qui suit ce verset 9 que nous avons lu tout à l'heure. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ce roi qui est proclamé au jour des rameaux, c'est un roi pacifique, dont le but ne sera pas la paix armée, c'est déjà un bel idéal quand on y arrive, c'est magnifique, ce n'est pas la paix armée, c'est de supprimer, de retrancher, ce verbe pèse là dans ce texte, de retrancher totalement, supprimer totalement les armes. Alors il faut revenir à l'actualité. En ces jours où, au nom de la religion, hélas, on tue, et même on se tue, en multipliant les horreurs. En ces jours où, tout autour de nous, la violence et l'agressivité se manifestent brutalement, et même jusque dans les cours des écoles, et même des écoles maternelles. Ça, c'est le quotidien. En ce jour où il semble que pour réussir, eh bien, il faut le faire à coups de poing. Où l'agressivité est de mise à tous les niveaux des relations humaines. La vision de ce roi a de quoi nous faire réfléchir. Et de faire réfléchir, pas seulement les théoriciens du terrorisme, n'est-ce pas, mais chacun de nous. Quand nous quitterons cette salle de culte, après avoir tous ensemble, avec tellement de joie, acclamé le roi Jésus, crier « Hosanna !» et après l'avoir fait avec les habitants de Jérusalem, comment est-ce que nous allons réagir nous-mêmes à la première contrariété que nous allons trouver là à la sortie du culte? Peut-être à cet automobiliste qui va nous couper la route, ou à cet enfant qui ne cesse de pleurer, de réclamer, à tel point qu'on ne supporte plus. Peut-être au repas qui n'est pas encore prêt, alors que tout devrait être prêt. Et demain, en revoyant ce collègue pas du tout sympathique, comment est-ce que nous allons réagir? Combien nous avons besoin d'humilité, de douceur à l'image du maître, du roi que nous acclamons? Il y a un texte de l'apôtre Paul que j'aimerais relire maintenant qui évoque tout cela, mais d'une façon tout à fait sublime. Il est bien connu, c'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et les versets 12 et suivants. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, mais supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est magnifique, n'est-ce pas, comme texte? C'est magnifique. Alors, la deuxième partie du verset 10 que nous avons lu tout à l'heure, peut-être faudrait revenir sur ce verset 10. Vous voyez, il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une deuxième dimension à relever à propos de ce roi, n'est-ce pas? En somme, la mission de ce roi, c'est pour la terre entière. Et ça surprend, parce que c'est le roi d'une ville qui est célèbre, mais qui n'est pas si grande que ça, d'un pays, d'un tout petit pays. Israël, c'est vraiment un tout petit pays, n'est-ce pas? Et le texte nous montre, et c'est ça sa dimension messianique, que cette domination s'étendra à toutes les nations. Il parlera de paix à toutes les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités du monde. Et oui, nous savons tous qu'il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour atteindre ce bout du monde. Regardons à notre droite ou à notre gauche, peut-être devant nous, ici dans cette salle de culte, n'est-ce pas? Ou peut-être derrière nous. Elles sont là, les nations. Le bout du monde, il est là, tout à côté de nous. Dans la rue, quand nous sortirons d'ici, là où nous habitons, là où nous travaillons. Et Jésus est le roi de toute la terre, de toutes les nations. Il est le roi de ceux que nous côtoyons chaque jour. La paix, cette paix est pour eux, comme pour nous. Nous sommes concitoyens, avec ou sans papier. C'est la Bible qui le dit. Il faut donc nous aimer, nous connaître, nous apprécier, apprendre à nous connaître dans les deux sens, n'est-ce pas? Prendre des nouvelles, nous entraider, voir au-delà de l'aspect extérieur, du vêtement, de la langue, des habitudes, regarder au cœur. Voilà la volonté de ce roi que nous accueillons. Et le verset suivant de cette prophétie de Zacharie nous surprend aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai au double. À cause du sang de l'Alliance. Tout à l'heure, nous allons prendre la scène, et celui qui préside la scène prononcera, peut-être relira ce texte où Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est versé pour vous. » Voilà comment s'est concrétisé pratiquement ce texte, ces versets 11 et 12 de Zacharie 9. « À cause du sang de l'Alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. » Jésus est mort sur la croix. Et il faut l'annoncer, et on l'annonce. Et merci aux jeunes qui ont ça vraiment à cœur, n'est-ce pas? C'est ça le centre du message. C'est ça qui peut délivrer de la fosse. Quelle est cette fosse où il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? C'était ces citernes asséchées où l'on jetait les gens pour être bien sûr qu'ils n'échappent pas, n'est-ce pas? Ça, c'était une prison sûre, n'est-ce pas? Et tout autour de nous, il y en a tant qui sont ainsi prisonniers de ces citernes, de ces lieux d'où ils ne peuvent s'échapper. Et peut-être nous aussi, moi aussi, prisonnier de ma colère, prisonnier de mes mauvaises réactions, prisonnier de mes partis pris, n'est-ce pas? Prisonnier du regard que je porte sur les autres, de cette mauvaise relation sur laquelle je n'arrive pas à passer, n'est-ce pas? De ce que je n'arrive pas à pardonner, de toutes ces souffrances passées qui pèsent encore sur mon cœur. Prisonnier de tout cela. Pour toi, à cause du sang de l'Alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonnier plein d'espérance. C'est un jour d'espérance, parce que Jésus est roi Il règne, il fera régner la paix, il supprimera toutes les armes et il nous délivrera de tout ce qui nous étouffe, de tout ce qui nous enserre. Et il établira ainsi son royaume. Il ne faut pas se tromper d'espérance, comme l'ont fait les habitants de Jérusalem, même s'ils ont si bien accueilli Jésus, n'est-ce pas ? Ils avaient une autre espérance. La nôtre, elle est là dans le texte, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je l'annonce, je te rendrai au double. Jésus est mort sur la croix et son sang a coulé pour que nous puissions être délivrés de tout ce qui nous étouffe et ainsi connaître la paix, cette paix que Jérusalem, hélas, n'a pas connue. Alors voilà, nous sommes au début de ce qu'on appelle la semaine sainte. Nous allons suivre ce roi dans tout ce qui va lui arriver pendant cette semaine. Et ça va être grave. Il y a le vendredi saint, n'est-ce pas ? Il y a la crucifixion, il y a ce grand silence dans la tombe, mais il y a le dimanche de la résurrection. Ce dimanche où il a manifesté sa pleine victoire sur toutes les puissances du mal. Et nous voulons vivre cette semaine en suivant le roi jusqu'à dimanche prochain, manifester ainsi sa résurrection. Et pas seulement le faire cette semaine, mais le vivre constamment. Que Dieu renouvelle en nous notre espérance et que nous puissions aller de l'avant en le suivant, lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.